France Musique.
C'est l'un des grands disques de la rentrée classique qui vient de sortir. Il s'intitule Révolution, avec une photo superbe, le disque du pianiste David Cadouche. Bonjour David.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur France Musique. Révolution, c'est écrit en rouge avec des lettres presque qu'on pourrait dire de réminiscence, je sais pas, soviétique, russe, avec cette grande photo en noir et blanc. On va expliquer, on va en parler, raconter les musiques, les œuvres que vous avez choisies, puisque c'est un disque programme. Mais vous, d'abord, David, est-ce que vous avez connu, vécu, entrepris votre révolution dans votre vie, d'artiste, de musicien, ou au contraire, il y a une continuité?
Non, je pense qu'on vit des révolutions en tant qu'artiste presque tous les jours. En tous les cas, j'essaie de provoquer ces révolutions, que ce soit en écoutant de la musique, en allant voir des films, en allant au théâtre. Chaque micro-inspiration m'est nécessaire pour pouvoir travailler, pour pouvoir respirer de la meilleure des manières en musique, parce qu'en fait, toute ma vie est orientée vers cet art, en fait. Tous les jours, je travaille mon piano et avoir une vie meilleure, je dirais, c'est travailler mieux pour moi. C'est aussi jouer mieux, bien évidemment. Mais donc, ce qui me fait travailler mieux, ce qui me fait jouer mieux, c'est ces micro-révolutions, et c'est principalement dans l'art que je trouve ces révolutions.
Notamment dans la littérature, on en parlera dans un instant, mais puisque vous en parlez là, ça vous arrive jamais de couper une semaine, deux semaines, trois semaines, partir en vacances?
Ça m'arrive très souvent, d'ailleurs j'organise ces coupures, mais je n'arrête jamais de lire ou d'aller au ciné ou de... Oui, c'est même pas des choses que je contrôle, ça m'amuse de le faire en fait.
Premier extrait de ce disque Révolution paru chez Mirare vendredi. Elle est sous-titrée Révolutionnaire, cette étude que Chopin écrit à Paris alors que son pays natal lutte contre l'envahisseur russe. Superbe interprétation de cette étude révolutionnaire, Frédéric Chopin, David Cadouche, extrait de votre disque Révolution. Alors là, c'est clair, la révolution, c'est celle qui se passe là-bas, en Pologne.
Voilà, Chopin compose cette étude parce qu'il entend parler donc de cette l'envahisseur russe en Pologne et ça le bouleverse. Et voilà, comment parler de comment écrire, comment composer, comment créer quand tout autour de soi s'effondre. Donc il sait la famille, les êtres aimés, les gens qui sont là-bas, il y pense et pourtant il se met à écrire sur le papier. Des choses qui nous bouleversent, et c'est ça qui m'intéressait, c'est ce moment-là. Et c'était aussi de faire partager à l'auditeur peut-être cette intimité de la fébrilité, je dirais, de cette inquiétude qu'on peut avoir quand tout s'écroule, et d'imaginer ces moments, et peut-être quand on écoute alors cette musique, il y a quelque chose d'autre qui entre en jeu. C'est pas seulement des œuvres magnifiques, bien des chefs-d'œuvre pour la plupart, enfin, pour tous ces disques d'ailleurs, c'est se rendre compte de ce moment-là, vivre le moment avec le compositeur. C'est pour ça que j'ai introduit, je dirais, ce concept de révolution.
C'est assez rare qu'un musicien, un pianiste, dise que son idée est venue de la littérature. Vous évoquiez la littérature tout à l'heure, d'une romancière en particulier, Annie Ernaux.
Oui, alors j'ai découvert Annie Ernaux. Je ne sais plus comment, mais j'ai l'impression de l'avoir connue toute ma vie, finalement, parce que c'est ça qui se passe avec les grands écrivains. C'est, ils nous parlent tellement à chacune de ces lignes m'est destinée. Je sais qu'elle vous est destinée aussi, mais j'ai l'impression qu'elle m'est destinée à moi encore plus. C'était aussi le cas avec... je lis souvent des femmes, je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui me touche peut-être plus. Et j'avais beaucoup lu Simone de Beauvoir, et Annie Ernaux m'a eu... De la même manière, je dirais, j'ai un peu tout lu, j'ai été très vorace avec elle et j'ai voulu tout lire. Et un livre qui m'a particulièrement bouleversé, c'est Les années. Et dans Les années, il y a cette dernière phrase qui pour moi est un chef-d'œuvre de dernière phrase où elle met, après avoir retranscrit un peu sa vie en faisant des parallèles avec des événements historiques qui se sont passés dans sa vie, des événements politiques, elle dit « sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais ». C'était la vocation, elle dit que c'est la vocation de son écriture, enfin ce que j'ai perçu être ça. Et ça m'a bouleversé, je me suis dit « mais en fait chaque artiste fait ça, c'est sa vocation, en fait, sauver ». Sauver ce que l'on a vécu, sauver les êtres aimés, nos amis, mais en musique ou en peinture, ou en tous les cas, c'est une des définitions de l'art peut-être. Et j'ai voulu opposer ça à son contraire, la révolution. Je me suis dit, ça serait tellement intéressant de montrer un artiste qui veut tout sauver face à une société qui ne veut plus rien sauver.
Révolution comme celle que perçoit au loin Frédéric Chopin, révolution intérieure aussi, et puis la première d'entre elles, pour nous, Français peut-être, la Révolution française, avec cette œuvre que vous avez beaucoup jouée ces derniers mois ou même ces dernières années, en concert, avant de l'enregistrer, et fort peu connue, Les Souffranges de la Reine de France de Dussek, qui est vraiment une œuvre programme, enfin c'est vraiment de la musique qui décrit.
Oui, c'est la musique à programme totalement. Et cette œuvre, c'est en fait les derniers instants de la vie de Marie-Antoinette, à partir du moment où elle est emprisonnée jusqu'à sa mort. Donc moi, j'explique souvent au public, j'essaie d'introduire l'œuvre parce que c'est vrai que comme ça, on ne pourrait pas se douter qu'il y a des titres. Ce sont donc 11 tableaux. La reine est emprisonnée. Elle dit adieu à ses enfants. Elle prie. Le tumulte du peuple qui vient voir son exécution. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette œuvre et ce qui fait le plus, je dirais, rire le public, c'est lorsque je dis qu'on entend la guillotine tomber. Et moi, ça m'amuse aussi que les gens rient lorsque je dis ça, parce que c'est une musique qui rit bizarrement aussi, je trouve. Il y a un aspect tragique, mais il y a un théâtre aussi qu'il arrive à créer.
Avec son apothéose, juste après
exactement.
La guillotine d'ailleurs.
Il arrive à créer une sorte de... C'est très grandiose. Il fait de cette mort quelque chose de très grandiose, de pas hyper tragique, mais plutôt d'une... Il donne une raison d'être à ce départ. Et moi j'ai souvent l'impression d'actionner des petites marionnettes qui jouent entre elles, qui représentent le théâtre de la vie de Marie-Antoinette.
D'ailleurs, ça m'évoque les théâtres de marionnettes qu'on voit à Versailles avec
évidemment,
les
Marie-Antoinette. Évidemment, je pense que c'est cette culture-là, en tous les cas. Je sens que ça vient de là.
Ouais. Alors c'est une musique qu'il faut écouter évidemment dans sa continuité. Malgré tout, voici la fin des souffrances de la reine de France et cette guillotine qui tombe. Vous allez l'entendre évidemment. Ça finit en apothéose, ces souffrances de la reine de France de Dussek. Étonnant, David Cadouche, sous vos doigts, cette fin heureuse écrite par un proche de Marie-Antoinette Dussek.
Bah, c'est peut-être pour ça, non ? Il en donne une version grandiose parce qu'il trouve déjà cette mort, je pense, grandiose. Il veut donner une raison d'être à cette mort. Et puis, je pense qu'il soutenait Marie-Antoinette et c'est une manière de fêter sa personnalité, son rayonnement. Et oui, c'est lui rendre hommage.
En happy end.
Pas en happy end, mais en happy monumental.
Il y a quelque chose de très beethovenien là, dans quelques accents qu'on entend dans cette musique peu jouée finalement de Dussek.
Effectivement, moi c'est un hasard total et je trouve ça assez magique, c'est que je travaillais cette œuvre et je me rends compte que l'un des derniers thèmes de cette apothéose, c'est exactement le même thème que les adieux de Beethoven, dans une autre tonalité bien évidemment. Et je n'ai pas choisi la sonate, je jouais déjà la sonate, les adieux après, mais je me suis dit c'est quand même un hasard assez magique et heureux pour moi que les deux soient connectés de cette manière-là.
Les adieux qui sont également donc sur ce disque Révolution, David Cadouche. Juste après d'ailleurs, on va en écouter un extrait dans un petit instant. Qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire ici dans cette musique-là ? Alors tout est peut-être révolutionnaire chez Beethoven.
Tout est révolutionnaire chez Beethoven en effet, mais là c'est dans l'aspect narratif qu'il se passe quelque chose. Beethoven compose cette œuvre à cause d'un soulèvement. Les armées napoléoniennes sont à Vienne, l'archiduc Rodolphe part et il compose ça pour lui. Donc le premier mouvement ce sont les adieux, le deuxième mouvement c'est l'absence et le troisième mouvement c'est le retour. Et c'est une sonate qui est complètement influencée par, par ce thème du tumulte et qui en est une très belle représentation, parce que là on a un Beethoven qui est d'ailleurs un Beethoven, je dirais, ses adieux sont plutôt heureux. On sent qu'il les a composés après avoir retrouvé cette personne, parce que quand il dit adieu, il le dit de manière, peut-être comme c'est aussi une manière poétique d'exprimer sa tristesse. On le voit avec du sec dans cette apothéose. On n'a pas des épanchements expressionniste à cette époque-là, bien évidemment, on a une réserve, mais parfois les choses les plus réservées sont souvent les plus émouvantes aussi.
Cette sonate des adieux de Beethoven, c'est une des sonates les plus célèbres du compositeur. Est-ce qu'on appréhende de la même façon des œuvres très connues, très jouées, et puis du sec ou des redécouvertes, de fait, souvent des découvertes. Je me souviens de ce très beau disque avec Edgar Moreau où j'ai découvert Rita Stroll, je connaissais pas cette compositrice, ouais. C'était superbe. Forcément, j'imagine qu'on va vers la partition différemment, parfois quand on l'a dans l'oreille depuis tout jeune.
Oui, c'est très ambigu comme rapport, parce que on a effectivement des versions dans nos têtes, on a des manières d'articuler notre discours, des timings, je dirais, une agogie qui est particulière parce qu'on a écouté tel ou tel pianiste depuis son enfance. Donc on a ça, et en même temps on s'approche de la partition et on doit se dire qu'on doit la découvrir complètement. Donc ça passe par une phase d'adaptation, de beaucoup de travail où on essaie de se rendre indépendant de toutes les versions qu'on ait pu entendre. On regarde vraiment le texte, et puis ce qui est très très beau, c'est qu'on veut quand même faire notre propre version, à notre manière de le dire, avec nos mots, je dirais.
C'est ce que vous dites à vos élèves, ceux que vous allez voir dans quelques heures, puisque c'est aujourd'hui votre rentrée aussi, David Cadouche, là-bas, un peu plus loin que la maison de la radio, sur cette île Séguin, la scène musicale, nouvelle promotion de l'Académie Jarowski. Vous êtes le prof de piano et vous découvrez vos élèves cet après-midi. On peut venir, hein, puisque c'est gratuit, entrée libre, les masterclass.
Masterclass publique. Je les découvre pas totalement, puisque je les ai choisis moi-même. Mais oui, c'est ce que je leur dis. Je leur dis que l'art, c'est une question de choix, en fait. Et de se retrouver face à une partition, c'est se retrouver face à des choix. Et en tant qu'artiste, on doit en faire. J'ai un peu de mal avec des gens qui n'en font pas. C'est-à-dire, on se retrouve face à des versions qui sont, oui, tantôt comme ça, tantôt comme ci, parce qu'on a écouté ça ou ça. Mais les versions les plus marquantes, c'est là où on se rend compte que l'artiste a fait des choix d'interprétation forts et que ça correspond à ce qu'il est. Et ça, c'est quelque chose avec lequel on ne peut pas tricher.
Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, David Cadouche, d'enseigner, de transmettre aujourd'hui ?
Ça m'apporte un apaisement, je trouve, par rapport à ma carrière de pianiste. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui me plaît. Et c'est pas quelque chose que je pensais, je pense par le passé, qui pourrait me plaire, en fait, tout simplement. Je m'amuse, tout simplement, aussi. Et puis, ça m'aide à travailler. C'est-à-dire que les jours d'après, je me sens beaucoup plus... j'ai l'impression d'avoir des rayons X dans les yeux et dans la tête, parce que j'ai aidé des gens. Et voilà, je disais que c'était faire des choix. Je pense que quand je sors de la semaine de masterclass, je fais beaucoup plus de choix et beaucoup plus rapidement.
Ça vous remet en question parfois ?
Ça me remet en question parce que je suis face à des gens absolument brillants, et ça m'a remis en question de manière beaucoup plus indulgente. C'est-à-dire que je me trouve assez bienveillant avec eux et je me suis dit pourquoi ne pas être aussi bienveillant avec moi-même.
Thank you. Les adieux, extrait du premier mouvement de cette sonate, de la 26e sonate de Beethoven, David Kadouch, qu'on trouve également sur ce disque Révolution qui vient de paraître. Là, sur Beethoven, on parlait de révolution, tout est révolutionnaire, disait-on. Moi, je trouve que sur ces sonates pour piano, et là, ça swing, j'ai l'impression qu'on entend un peu presque, on va pas dire les prémices du jazz, mais il y a quelque chose qui balance de nouveau vraiment dans cette musique-là.
Oui, alors je ne sais pas si on peut appeler ça jazz, mais c'est que c'est quelqu'un qui a un sens bien sûr du swing. Alors on n'appelait pas ça swing non plus, mais non, c'était quelqu'un qui aimait danser, ce qu'on appelle une sorte de syncope, cette syncope permanente, cette manière d'articuler le discours où on a l'impression qu'on pourrait, utiliser nos pieds plutôt que nos doigts. C'est dans Beethoven, c'est avant, c'est chez Vivaldi, c'est des gens qui savent danser, qui connaissent le rythme et qui connaissent surtout notre manière de bouger.
Danser, dansez-moi, c'est un programme que vous allez donner le 11 octobre à Paris, à la Scala, aux Armes Contemporains. C'est le festival avec beaucoup de créations, 6 créations pour ce concert. Vous n'endormez pas la nuit, vous me disiez.
C'est 6 créations. Je n'endors pas la nuit parce
pour
que.
Pour un concert, c'est très rare.
C'est un projet. Avec beaucoup de responsabilité parce qu'il y aura les compositeurs et puis c'est un projet qui me tient à cœur parce que je trouve magnifique. En fait, quand on me l'a proposé, je me suis dit c'est extraordinaire. J'ai souvent l'impression de, enfin moi je fais ça depuis, donc on commence ce métier quand on est pianiste, je dirais vers 5 ans. Donc moi j'ai commencé à 5 ans, je fais ça depuis de nombreuses années et parfois pas tout le temps. Parce qu'il y a le concert où je me sens baigné dans le présent, mais parfois quand je suis dans ma cabine de travail, à travailler des compositeurs qui sont morts depuis des centaines d'années, je me sens un peu comme un restaurateur de tableaux dans un musée. Parce que j'ai beaucoup de respect pour les restaurateurs de tableaux dans le musée, j'ai d'ailleurs visité de grands ateliers, c'est magnifique, mais cette dimension actuelle de l'artiste, elle me manque. Et surtout, comme je vous le disais, je suis très connecté au milieu du théâtre où je vois des metteurs en scène bouleverser des classiques, donner leur version de classique. Alors bien sûr, je fais ça avec les œuvres telles que.
C'est ce qui se passe d'ailleurs, la Scala d'ailleurs également en théâtre.
Exactement. Et donc, ce projet m'a beaucoup attiré parce que là, je suis au cœur de cette actualité, je suis au cœur de ces artistes qui parlent de notre époque. Je ne sais pas comment ils en parlent, je ne peux pas dire, mais en tous les cas, moi je suis l'interprète et je suis le messager au public de cette époque-là, de notre époque, et je trouve ça fascinant.
Vous échangez avec eux d'ailleurs, par exemple Philippe Schoeller, l'un des compositeurs qui écrit pour vous.
Alors pour l'instant on échange très peu parce que de la même manière que moi j'ai attendu leur partition, je pense qu'ils attendent que j'apprenne leurs notes. Donc chacun attend, on s'attend et on va se rencontrer à la fin du mois tous pour que je leur joue les œuvres.
Le concert est dans un mois, le 11 octobre. Le disque Révolution vient de paraître Chimera Ray et il s'achève par une œuvre d'un compositeur vivant.
Frédéric Chevski, qui est Winsboro Cotton Mill Blues, qui est une œuvre fascinante, bouleversante et très
révolutionnaire.
Marquante.
En quoi ?
Absolument. Déjà très politique et révolutionnaire parce que parce qu'il parle du peuple, il parle de ces gens qui travaillent dans des usines et qu'ils se font happer et annihiler par le rythme de l'usine.
Merci David Kadouch d'être venu ce matin sur France Musique et bonne rentrée, rendez-vous cet après-midi à la scène musicale avec vos élèves.
Merci beaucoup.
Winsboro, Cotton Mill Blues, œuvre de Frédéric Hrzewski, dernière plage du disque Révolution de David Kadouch. On n'a pas parlé de Janáček, ni de Liszt, ni de Debussy également sur ce disque. Et on pourra vous entendre, David, je le disais, à Paris le 11 octobre à la Scala, le 29 octobre dans un club lynchien de la capitale qui s'appelle Le Silencio, mais il paraît qu'on n'a pas le droit de le dire, et le 16 novembre au château de Compiègne pour les prochains concerts. Merci à Salomé Coq, à Margot Muller, à Marion Guillemet, à Max Dozolm, José Bernays, Antoine Giraud et Yacine Bouzard qui étaient au générique ce matin. Et c'est l'heure de donner la réponse de notre jeu. Guillaume Coppola au piano dans cette œuvre de Satie. C'est une gnossienne que nous écoutions. Bonjour Émilie Munera. Bonjour Rodolphe Bruno Boulmier.
Bonjour Jean-Baptiste. Que David Kadouch se rassure, on entendra Debussy dans En Piste cette semaine.
Ah, comme mais tout est calculé, pensé, mais évidemment, ce que je diffuse, vous diffusez ensuite.
Du sec, parce que c'est notre grande passion. C'est passion, ouais, passion du sec avec, avec Rodolphe. Donc on l'entendra également dans cette émission. Et puis aujourd'hui, dans En Piste, il y aura la musique de chambre avec vent de Francis Poulenc. Et ça, c'est. Moi, c'est. Ah, voilà, c'est mon
YouTube
sucrerie à moi. Même pas. Pour l'instant, je commence par de la flûte. Belle journée.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.